Thomas, c'est par ici. Le point de départ se trouve devant le panneau bleu de la Senda Costeira.
Bonjour, me voilà. Je suis vraiment ravi, chère Syrah, que vous soyez venue si tôt aujourd'hui à ma demande. Car depuis notre dernière conversation, je ne sais pas où donner de la tête.
Oh, je suis vraiment navrée de l'apprendre. Mais s'il vous semble que cette promenade peut vous être utile, ne perdons pas une seconde.
J'en suis sûr. Je dois m'enrichir d'expériences et de connaissances autres que les dirigeables et me changer des idées. Car j'enchaîne les nuits blanches à vouloir tout savoir sur les avions à ailes fixées à des zeppelins.
Je peux tout à fait comprendre que vous ayez du mal à digérer toutes ces nouvelles informations. Et puis, ça doit être également déconcertant d'apprendre que vous aviez vu juste dans votre livre pionnier « Projet sur la navigation aérienne ».
J'ai fini de l'écrire en 1879. Cela fait combien de temps?
Plus de 140 ans. C'est vraiment dommage qu'il soit resté dans un tiroir et qu'il n'ait jamais été publié.
Une chose est sûre. Si j'avais été riche, il n'y a pas une entreprise au monde dans laquelle je n'aurais investi avec autant d'enthousiasme une partie de mon capital que dans la construction d'un ballon neuf comme celui que j'ai imaginé. Cependant, comme j'étais sans dessous, je n'ai pas pu réaliser mon rêve. Comme j'écris à la fin de mon manuscrit, je vais avoir bientôt 81 ans et j'abandonne tout espoir de voir un jour de mes yeux la navigation aérienne. Et me voici à présent, apprenant l'histoire de l'aviation comme jamais je n'aurais pu l'imaginer et découvrant un monde tout à fait nouveau pour moi.
Et vous le méritez, parce que vous, Monsieur Thomas Marinho, né à Chauvet, géomètre et maître d'école, avez été l'un des pionniers de la navigation aérienne. Même si l'on ne vous a jamais reconnu ce mérite au-delà de votre terre natale. Rien ne vous a empêché de participer aux évolutions de votre époque, lorsque l'idée de construire un ballon dirigeable n'en était encore qu'au stade du balbutiement.
Simplement m'est venu à l'esprit, à savoir pourquoi, l'idée de diriger des ballons et de naviguer dans les airs comme on le faisait sur la mer. Je n'étais pas sûr d'avoir vu juste, parce qu'il était impossible de le savoir sans effectuer des essais. Chose que je n'ai jamais pu faire.
Comme vous le savez désormais, après votre décès en 1880, l'histoire de la navigation aérienne a été marquée par des essais constants et d'énormes échecs.
Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il a fallu attendre 20 ans jusqu'en 1900 pour voir voler le premier dirigeable du comte Zeppelin.
Dans votre projet, vous proposiez déjà l'utilisation d'hélices pour le déplacement horizontal et vertical, ainsi que des solutions pour assurer la stabilité, la vitesse et la direction des ballons. Mais aujourd'hui, je vous ai amené ici pour que vous voyiez à quel point le paysage que vous avez connu pendant votre jeunesse a changé.
Je suis très reconnaissant de vous avoir pour guide dans ce monde actuel si différent au mien, et de me raconter ce qui s'est passé depuis mon décès.
Alors allons-y. Mais avant ça, laissez-moi donner quelques indications pour éviter de se perdre pendant la promenade. Chemin faisant, je dirai par où il faut passer, donc soyez attentifs à mes indications. Vous devez vous arrêter uniquement quand je vous le dirai. Le reste du temps, nous marcherons à pas lents, mais il est important de suivre un rythme constant et de l'adapter si vous constatez que vous allez trop vite ou trop lentement par rapport à mes indications. C'est d'accord?
Tout à fait. On commence quand vous voulez.
On va se déplacer de manière à ce que le panneau bleu de la Senda Costeira se situe à notre gauche. C'est bon? On commence à avancer lentement en direction du panneau plus grand, à quelques mètres. Allez, c'est ici le point de départ de la promenade parce qu'ici se trouve un bel exemple de restauration du paysage littoral après une utilisation industrielle intensive. En effet, ce terrain était occupé par l'usine baleinière de Moras. Vous êtes arrivé à l'autre panneau? Très bien. Nous allons passer devant plusieurs panneaux explicatifs comme celui-ci, qui offrent nombre de détails sur l'usine. Mais nous n'allons pas nous y attarder pour le moment. Si vous le souhaitez, nous y reviendrons après la promenade. À présent, nous allons continuer notre itinéraire sur ce sentier cimenté qui part à droite et qui va parcourir toute l'esplanade. Allez! On y va.
Cette plaine aurait été une bonne piste de décollage pour tester mon ballon neuf.
Allons, Thomas. Tâchez de vous enlever les dirigeables de la tête et essayez d'imaginer comment était cet endroit lorsqu'il y avait l'usine baleinière.
Excusez-moi, dites-nous en plus. Je vous prie, et pendant ce temps, je laisserai libre cours à mon imagination. En outre, j'ai toujours été fasciné par les cétacés, et je sais que tout le littoral fut une zone propice à la chasse à la baleine depuis l'Antiquité.
C'est vrai, mais je vais faire référence à une période bien plus récente, qui s'étale de 1965 à 1977, lorsque l'usine baleinière de Moras était en fonctionnement. Elle s'est installée ici à cause d'une dispute entrepreneuriale. À l'époque, la licence pour pêcher la baleine et avoir des usines entre l'embouchure du Miño et Estaca de Bares avait été attribuée exclusivement à IBSA. Mais la conserverie Masso voulait également se lancer dans l'activité baleinière et elle a donc commencé à chercher un emplacement plus loin pour implanter une nouvelle usine.
Eh bien, ils ont eu du flair. L'endroit me semble idéal, bien abrité et accessible.
Maintenant, imaginez tout ce terrain rempli de bâtiments industriels. Là où commence notre promenade, au bord de la route, étaient situés les bureaux et le laboratoire de cette usine. Ensuite, nous avons traversé de part et d'autre le premier bâtiment et, après le tournant, nous sommes entrés dans la zone de stockage de la farine qui était reliée par une rampe à la piste où l'on dépeçait les baleines. Attention! À présent, parce que là-devant, vers le troisième panneau d'information, vous verrez qu'il y a une bifurcation. Nous allons tourner à droite et continuer sur le sentier qui mène à la mer.
Ils auraient pu laisser sur le sol des marques afin de se rendre compte des dimensions de ces installations et connaître la disposition des différentes pièces et machines.
Eh bien moi, j'aime autant laisser la place à l'imagination. À présent, nous passons là où se situaient les trois principaux bâtiments industriels. À notre droite, il y avait la chambre froide, ensuite la salle de transformation de la viande et au bout, la salle de séchage ainsi que le moulin qui broyait les déchets. Et ici devait se trouver un grand portail relié à la rampe de levage. La rampe est le seul vestige qui soit resté de cette station baleinière.
Puis-je m'arrêter là un instant?
Bien sûr.
Je vais m'asseoir sur ce banc qui est là à droite.
Là, assis, vous verrez la rampe de levage. Lorsque l'usine était en fonctionnement, la rampe était recouverte de bois. Ainsi, le corps des baleines glissait aisément et il était plus facile de les tirer vers l'intérieur des bâtiments où elles étaient transformées. La saison de la chasse commençait au mois de mai et s'achevait en novembre. La première saison, on dénombra 149 captures. Le jour qui compta le plus grand nombre de prises, 12 cachalots et 2 baleines sont entrés dans l'usine. Et il n'y avait pourtant que 2 bateaux, le Carumeiro et le Cabo Moras.
Usine, usine, ici Carumeiro.
À vous, Carumeiro.
On arrivera vers midi, on est à 3000 de Roncadoy.
Bien reçu, Carumeiro.
2 baleines bridées au fond du bateau.
Bien reçu, tout est prêt pour l'entrée en usine. Terminé. Écoute, que tout le monde soit prêt. Le Carumeiro arrive avec 2 baleines.
On travaille déjà sur 2 cachalots et on en a 2 autres attachés au bruit, là, dehors.
Laissez-les là pour l'instant. On va faire entrer d'abord les baleines chassées par le Carumeiro pour que la viande ne s'abîme pas. Que les bateaux se préparent pour les détacher dès qu'elles arriveront au port.
Quand les cétacés arrivaient au pied de la rampe, on les attachait par la queue et à travers un système de levage mécanique, on les tirait jusqu'au lieu du dépeçage où les ouvriers se tenaient prêts. Les baleines entraient par ici pour être transformées jusqu'à disparaître complètement. Allez, si vous vous êtes assez reposé, on peut continuer.
Oui, bien sûr, on y va. Nous revenons sur nos pas?
Oui, on rebrousse chemin jusqu'au panneau suivant. Ensuite, on prendra à droite sur le même sentier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
Maintenant, on serait en train de traverser le bâtiment consacré au dépeçage. Ici, le sol était entièrement recouvert de bois afin de faciliter le déplacement des animaux. Les ouvriers devaient porter des bottes avec des pieds dans les tunnels. À droite, se trouvait la salle du père et la salle des plusieurs Hartmans. L'odeur était pestilentielle et envahissait tout le bâtiment.
Syrah, une fois arrivé au panneau, on tourne à droite?
Tout à fait. Nous allons prendre à droite et continuer sur ce sentier jusqu'au bout. Il débouche sur la route d'accès à la plage. Regardez, maintenant nous avons passé là où était située la salle des chaudières et ensuite la salle de stockage des os.
Vous devez m'excuser, mais je n'arrive pas vraiment à me concentrer. Je ne cesse de me demander quels sont ces étranges bâtiments orangés qui longent la côte vers San Cibrao.
On en reparlera plus tard. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que ces bâtiments et les digues font partie d'un complexe métallurgique implanté ici en 1977 et qui a entraîné la fin de l'usine Baleinière parce qu'une industrie d'aluminium était incompatible avec une usine de produits alimentaires. Bon, eh bien, nous sommes sortis de l'usine. Faisons une petite halte. Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose.
Je ne voulais pas vous interrompre tout à l'heure, mais autrefois, le terrain où est implanté l'usine s'appelait Campo do Paz. On l'utilisait pour stocker du bois de pin que l'on envoyait par bateau à Avilés, Gijón et Bilbao.
Très bien, on continue. On va tourner à droite et emprunter cette route qui descend vers la plage. Et les fêtes du Carmen se déroulaient ici aussi.
On célébrait une fête à l'honneur de la Vierge du Carmen et de Saint-Antoine. À Moras, les festivités duraient 2 jours. Aujourd'hui, je n'en sais trop rien. Le jour de la Saint-Antoine, la messe était célébrée à l'église. Et après, on descendait des statues des saints en procession jusqu'au Portinho. Ils passaient la nuit là-bas. Le lendemain, la messe était célébrée sur la plage. Après une procession en mer, on en jetait une couronne de fleurs et en mémoire des disparus. Ensuite, on remontait les statues des saints à l'église.
Est-ce que vous vous souvenez de l'atelier de Salaison qui se trouvait là-bas à gauche? Juste en face de la plage, avant cette maison qui a été construite récemment. Certains habitants m'ont raconté qu'ils se souviennent de voir les cuves de Salaison du Poisson.
Eh bien, je n'avais jamais eu vent d'un quelconque atelier de Salaison par ici. Il date sûrement d'après ma disparition.
Ici, la Salaison a dû arriver plus tard. Que je sache, cet atelier était la seule construction qui existait avant les années 50, avec 2 cabanes de pêcheurs situées en haut, près du port.
À mon époque, le salage du poisson était en plein essor, mais ailleurs. J'avais déjà entendu parler d'une autre invention, qui était la conserve de poisson en boîte, mais je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'ici.
Tout à fait. Quelques années plus tard... Et d'ailleurs, cette industrie joua un rôle très important sur tout le littoral galicien jusqu'à nos jours. Écoutez, maintenant nous allons tourner à droite pour suivre ce sentier qui longe la plage en direction du port. D'accord?
Très bien, je vous suis.
Et sur cette plage, à votre époque, il devait y avoir des bateaux de pêche.
Oui, mais c'était de petits canots. Les gens allaient pêcher surtout en été. En hiver, ils laissaient des canots dans les prairies et ils y restaient jusqu'au printemps.
Selon les dires des anciens, ils pêchaient près de la côte et utilisaient des nasses, qui étaient énormes et fabriquées avec des tiges d'eucalyptus.
Je ne m'en souviens pas. Peut-être est-ce ma mémoire qui flanche ou peut-être étaient-ce des engins de pêche méconnus à l'époque. En tout cas, je n'ai jamais vu d'eucalyptus par ici de toute ma vie. Et ces maisons, qu'est-ce qu'elles font là?
À l'origine, c'était des cabanes de pêcheurs. Ils y gardaient leurs engins de pêche. Regardez à gauche, il y en a 2 en pierre. Ce sont les plus anciennes.
Effectivement. Autrefois, il n'y avait pas de maison habitée, parce que les gens vivaient vers l'intérieur, à 1 ou 2 kilomètres. Dans ces terrains, je revois l'image des filets tendus sur le sol pour les faire sécher.
Les habitants m'ont raconté que la famille propriétaire de cette cabane en pierre se chargeait de coudre et de réparer les filets. Je suppose qu'ils s'occupaient aussi du tannage. Ça vous dit quelque chose?
Mes connaissances ne sont pas si vastes comme vous semblez l'imaginer, mon ami. Et même si j'ai vécu à Chobe et à Viveiro, j'ignore bon nombre des coutumes des marins-pêcheurs.
Une fois au bout du sentier que nous avons emprunté, nous allons tourner à droite pour suivre une piste goudronnée qui descend vers le port. Eh bien, pour votre gouverne, le tannage était un processus ayant pour but de teindre les filets et de favoriser leur conservation. Les filets étaient fabriqués en fil et pour les rendre plus résistants, on les mettait dans l'eau bouillante avec des écorces de pin ou d'autres arbres, ce qui leur donnait une couleur marron singulière. À côté des murs de l'une de ces cabanes, on peut encore voir une cuve en pierre mais il me semble un peu petit pour le tenage.
Et cette énorme esplanade, je n'en ai vraiment aucun souvenir.
C'est normal. C'est le nouveau quai. Tout cet espace a été gagné à la mer. Ça vous dit d'aller jusqu'au bout du quai?
Oui, bonne idée.
Eh bien, nous allons nous diriger vers la gauche et continuer à marcher jusqu'à un muret en pierre. Regardez, ces bosses qu'il y a à droite, au bord du quai, recouvertes de filets et de bâches, ce sont des nasses.
Un engin de pêche intéressant.
On les utilise pour capturer les poulpes, les étrilles, les araignées de mer, les homards.
À part les langoustes, les fruits de mer n'étaient pas très pressés à mon époque.
Regardez, d'ici on voit beaucoup mieux ce bâtiment rouillé dont vous m'avez parlé. Vous le voyez là-bas au fond, légèrement vers la droite. Eh bien, tout cela c'est le complexe industriel d'Alumina Alumina. Les bâtiments rouillés font partie de l'usine d'alumine. Et à droite se trouve l'usine d'aluminium. L'alumine se fait à Cervo et l'aluminium se trouve à Chauvin. Ils sont divisés parce que le processus d'obtention de l'aluminium compte deux phases. D'abord, on obtient l'alumine à partir de la bauxite, qui est un minéral provenant de Guinée-Conakry et qui a cette couleur terreuse. Après un processus électrolytique, qui implique une énorme consommation d'énergie, l'alumine est transformée en aluminium.
Ça alors, de l'alchimie pure et dure. Si j'avais eu une usine d'aluminium près de chez moi, j'aurais peut-être incorporé ce composé à mon projet de ballon neuf. D'après ce que vous m'avez raconté, d'autres l'ont fait peu après. Mais à l'époque, l'aluminium était considéré comme un métal précieux, presque aussi cher que l'or.
L'exploitation industrielle de l'aluminium s'est développée une décennie après l'écriture de votre projet. À l'époque, un inventeur hongrois, David Schwarz, a eu l'idée d'utiliser l'aluminium pour couvrir son dirigeable. Une idée qui a ensuite été reprise par le comte Zeppelin.
Je crois que l'utilisation de l'aluminium a été décisive pour le succès de son dirigeable, en raison de sa légèreté et de sa résistance.
Nous allons avancer jusqu'à ce muret en pierre qui se trouve à la fin du quai. Nous ferons une petite halte près de la plaque au début de cette petite digue qui s'ouvre à droite.
Et quand dites-vous que cette usine a ouvert ses portes?
Elle a commencé son activité en 1979, même s'ils ont mis plus de temps à mettre en fonctionnement tout le complexe.
C'est exactement 100 ans après avoir achevé mon projet sur la navigation aérienne.
Ça alors, personne ne s'était rendu compte de cette coïncidence. Une sorte de justice poétique.
Je doute fort qu'il y ait une quelconque justice et encore moins de la poésie dans une idée gardée dans un tiroir. Dites-moi, la construction de cette usine a dû prendre beaucoup de temps et exiger beaucoup de main-d'œuvre.
Pas vraiment. L'usine a été bâtie en 4 ans environ. Pour ces travaux, des milliers de personnes sont venues de toute la Galice, mais aussi des Asturies, de Castille et également du Cap-Vert. Lorsque tout s'est mis en marche en 1980, elle comptait 2733 emplois directs. Elle a eu un énorme impact social et économique dans toute la région de Amarinha.
Si j'ai bien compris, vous avez dit il y a un instant que le processus d'obtention de l'aluminium exigeait beaucoup d'énergie. Et vu la dimension de ces usines, je suis incapable d'imaginer comment on pouvait en produire une telle quantité.
Quand je parle d'énergie, je fais référence à l'électricité. Je crois que vous avez compris comment elle est produite et transformée.
Je comprends grosso modo le mode de production et de transport. Mais cela ne veut pas dire que j'arrive à me faire une idée de tous les moyens existants pour l'obtenir.
Eh bien, pour fournir de l'électricité au complexe d'Alumina Aluminio, on songea à deux sources principales. D'un côté, une grande centrale thermoélectrique située à environ 45 km à Aspontes, dont la construction a commencé presque en même temps que le projet de l'usine d'aluminium. Et de l'autre, pour garantir l'approvisionnement en électricité à long terme, une centrale nucléaire dans la petite baie de Regodella à Portocello, à moins de 9 km de là.
Cher ami, je commence à me faire une idée assez nette sur l'électricité. Mais tout ce qui a trait à l'énergie nucléaire reste un mystère pour moi.
Ce n'est pas bien grave. Mais il faut savoir qu'à l'époque, l'opinion publique était très opposée aux centrales nucléaires en raison de leur dangerosité. Ici même, en 1977, il y a eu une manifestation historique qui a rassemblé environ 10 000 personnes. En fin de compte, le projet n'a pas abouti.
Je ne comprends pas. À mon époque, les progrès scientifiques et technologiques faisaient l'objet de célébrations unanimes.
Peut-être la société a-t-elle appris de ses erreurs et pris conscience que le progrès ne peut pas être infini. Mais de toute façon, même sans énergie nucléaire, 20 ans plus tard, c'était la troisième usine du monde en matière de production d'aluminium. Et à l'époque, elle a été vendue à l'une des plus grandes multinationales du secteur, l'entreprise nord-américaine Alcoa, qui s'est emparée de toute l'industrie de l'aluminium espagnol, qui avant était publique. Avec le temps, elle est devenue la seule usine d'aluminium en fonctionnement en Espagne, mais avec beaucoup de problèmes pour assurer la continuité de son activité, en partie à cause du coût élevé de l'électricité.
Donc, si je ne me trompe pas, elle a été en activité pendant seulement 40 ans. On dirait que dans votre monde, tout va très vite. Et qu'est-ce qu'ils feront de tout ça quand elle fermera ses portes?
Bonne question. Je n'en sais rien. Peut-être dans un avenir pas trop lointain, concevra-t-on un plan de récupération, comme pour l'usine Baleinière. Mais changeons de sujet. Ici, à gauche, se trouve le muret en pierre qui ferme le quai. Le voyez-vous? Il devrait être un peu en retrait, à votre gauche.
Oui, bien sûr. On dirait qu'il fait partie d'une construction plus ancienne. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu quelque chose à cet endroit.
À votre époque, il n'y avait que des pierres, et au-delà, c'était le grand large. C'est pour ça que ces murs ont été bâtis là. Comme vous le voyez, ils contiennent une surface assez grande. Ils font partie d'un ancien vivier utilisant l'eau de mer. Maintenant, il est recouvert d'une chape de ciment, mais avant, il était en bois. Et là-bas, au fond, se trouve la piscine.
Et à quoi pouvait servir une piscine aussi grande et éloignée?
On déposait ici les crustacés pour les maintenir vivants.
La consommation de fruits de mer remonte donc à plus longtemps.
Alors, la construction de ce vivier date des années 1950. Mais le lancement de l'usine Baleinière que nous avons vu auparavant vers 1965 a rendu le vivier inutilisable. À l'arrivée des cétacés pour le dépeçage, le sang et la graisse s'amoncelaient sur toute la baie et polluaient l'eau. Revenons sur nos pas. Je vais vous raconter tout ça. Nous devons parcourir à nouveau tout le quai en sens contraire. Allons-y.
Je ne veux pas avancer d'hypothèse, mais d'après ce que je vois, il est arrivé à ce vivier la même chose qu'à l'usine Baleinière peu après, qui a dû fermer ses portes lorsque la fabrique d'aluminium s'est implantée ici.
Effectivement, il n'est pas facile d'apprendre de ses erreurs. Mais l'agriculture et la pêche sont des activités très contraignantes, vous en conviendrez. Les habitants ont donc bien fait d'accepter d'autres emplois plus bénéfiques, comme ceux offerts par l'usine Baleinière ou la fabrique d'aluminium.
Pouvoir constater que c'est devenu une réalité 100 ans après chez moi est un privilège. Même si ce que j'ai devant les yeux aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé.
N'allez pas penser que les habitants ont accepté sans broncher tout ce qui allait leur tomber dessus. Il y a eu des manifestations, parce que toute cette partie du littoral est devenue une concession d'Alumina et la continuité de l'activité de la pêche était menacée. Ils ont dû beaucoup batailler pour conserver non seulement le droit de continuer à utiliser le petit port, mais aussi pour arracher la promesse de construire de nouveaux quais et de nouvelles installations. Pour que le port ait les prestations que vous voyez aujourd'hui, il a fallu patienter plus de 20 ans.
J'en conclus qu'il y a des choses qui vont très rapidement, comme bâtir une usine d'aluminium, et d'autres qui se font désirer, comme l'amélioration d'un petit port.
Vous commencez à comprendre comment fonctionne le monde actuel. Et ensuite, arriva le forage pour extraire de la pierre.
Alors là, j'ai perdu le fil. Forer? Extraire de la pierre? D'où? Pourquoi faire?
Je vais vous répondre. Mais avant ça, laissez-moi donner une autre indication. Lorsque nous arriverons au bord du port, nous allons monter cette petite pente qui part à droite pour atteindre le sommet. C'est d'accord?
D'accord, mais d'un pas lent.
Pour revenir à votre question, je me doute que ce ne soit pas facile à comprendre. Ou peut-être que je vais trop vite. Ici, il a fallu extraire beaucoup de pierres en peu de temps pour construire les digues de protection. D'où les forages continus. Pour résumer, voilà ce qui s'est passé. Même si cela peut sembler incroyable. Lorsque l'usine d'aluminium a été projetée, personne ne pensa aux digues. Alors que l'une des exigences du complexe était que le déchargement de la bauxite au port devait pouvoir avoir lieu sous tout type de conditions climatiques.
Comment est-il possible d'oublier une chose aussi basique dans ce projet?
À l'époque, on lançait des projets sans trop prendre en compte toutes les conséquences et donc, parfois, il fallait apporter des ajustements en cours de route. En l'occurrence, à l'origine, l'idée était de construire le complexe dans la Ria da Rosa, à Villa Garcia, dont les eaux sont bien plus calmes et il n'y avait donc pas besoin de digues de protection.
Et pour quelle raison a-t-il été finalement implanté ici?
Attendez, lorsque nous atteindrons le sommet de cette petite pente, il faut tourner à gauche. Là-bas, au fond, il y a un endroit qui est lié à tout cela. Lorsque la population a su que l'emplacement choisi pour les usines était Villa Garcia, les manifestations ont commencé. Car c'est l'une des rias les plus riches et productives de Galice qui était menacée. Alors, ils ont dû trouver une autre localisation. Moras et San Cibrao. Comme la fabrique était déjà prévue, il a fallu entreprendre dans l'urgence la conception et la construction des digues de protection, parce qu'ici, la mer est agitée et ne permettait pas les opérations de déchargement des bateaux bauxitiers. Écoutez, nous allons nous arrêter ici, à droite, sur cette plateforme en bois qui se trouve devant cet autre panneau.
Très bien. Je suppose que ces étranges formations qui se trouvent devant nous sont liées à notre sujet de conversation.
En effet, mais chaque chose en son temps. Tenez, vous avez là un petit banc où vous pouvez vous asseoir. Revenons à nos moutons. Je vous disais donc qu'il fallait faire deux digues de protection de 1000 mètres chacune. Et elles devaient être élevées le plus vite possible parce que la mise en fonctionnement du complexe industriel en dépendait. Et sa construction était, elle, bien avancée. Parmi les différentes solutions proposées, on a retenu celle qui suggérait de protéger les digues en utilisant des pièces sveltes, en plus des cubes habituels. Ce sont ces blocs en béton qui se trouvent devant, à droite. On les appelle des dolos.
Donc, ces figures d'une géométrie étrange ont été placées dans la digue pour la protéger de la puissance de la mer.
Grâce à ce double T inversé, elle s'enchasse de telle façon que la mer s'y perd et que la force des vagues faiblit lorsqu'elles s'y abattent. Par ailleurs, un autre facteur déterminant a fait pencher la balance. Les dolos se fabriquent plus rapidement et sont moins lourds que les blocs qui sont habituellement utilisés, ce qui permet de les manipuler et de les déplacer beaucoup plus facilement. Sans ça, ils n'auraient jamais pu être mis en place à temps.
Et pourquoi sont-ils maintenant dans ce cercle?
Certains sont là, comme s'ils faisaient partie d'une exposition en plein air. Mais cela a un sens, parce que c'est de là qu'ils sont sortis. Le cercle que nous avons devant nous est le vestige de la fabrique de Dolos. Pour accélérer les travaux, elle a été implantée ici, très près de la digue nord. Au centre, on plaçait une grue énorme et autour, on avait mis des coffrages. Les pièces résultantes étaient déplacées avec la grue, qui avait une portée de plus de 15 mètres. Les dolos restaient là plus d'un mois avant d'être transportés et déposés sur la digue.
Eh bien, on dirait plutôt une usine de campagne, comme si elle faisait partie d'une opération de combat pour ravitailler le front de bataille.
C'est une façon de voir les choses. Et vous n'êtes peut-être pas loin de la réalité. Parce qu'ainsi, ils ont réussi leur pari de ne pas retarder la mise en fonctionnement du complexe industriel. Entre 1976 et 1979, environ 18 000 dolos de 53 tonnes chacun ont été construits. Au vu de l'urgence exigée par les travaux, ils sont arrivés à placer dans la digue 160 dolos par jour. Sur ce panneau, vous trouverez bien plus d'informations et certaines photos de l'époque. Mais mieux vaut continuer notre promenade et peut-être, ensuite on pourra y retourner pour les voir tranquillement. Parce que je veux vous montrer un endroit connu sous le nom de Cimetière des Dolos. qu'est-ce que vous en dites?
Je vous accompagne avec plaisir dans ce cimetière bien singulier.
Oui, vous verrez. Regardez le cercle des Dolos. Maintenant, tournez votre regard vers la droite. Nous allons rebrousser chemin.
Bon, eh bien, je me lève et on y va. Et je me demande, s'ils ont travaillé avec autant d'ardeur et s'ils sont parvenus à fabriquer une aussi grosse quantité de pièces, il y a dû avoir ici pendant des années une symphonie de malaxeurs, grues, barges et que sais-je encore.
La population a essayé tant bien que mal de supporter le bruit des travaux, mais c'était un hameau calme et paisible et d'un jour à l'autre, un vacarme incessant est venu troubler cette tranquillité.
Pardonnez mon ignorance propre à une personne de mon âge qui n'a pas appréhendé le monde depuis plus de 100 ans. Les Dolos ont-ils été inventés ici? Je n'ai jamais entendu ce mot et je ne me rappelle pas l'avoir lu dans aucun traité de géométrie.
Avant de vous répondre, une indication. Une fois arrivé au croisement, on prend à gauche. Par ici, des voitures peuvent passer. Donc, on va marcher du côté gauche de la route. Où en étions-nous? Ah, j'y suis. Vous ne pouvez rien savoir sur les Dolos puisqu'ils ont été inventés en 1963 par deux ingénieurs sud-africains. Ils ont été utilisés pour la première fois pour la construction de l'épi situé à l'entrée du port d'East London, une ville du sud-ouest de l'Afrique du Sud. Son nom vient de l'Afrikaans. Vous ne savez certainement pas de quoi il s'agit parce que c'est une langue qui dérive de la langue parlée par les colons hollandais mélangée à l'anglais, le malais, le portugais et plusieurs langues africaines. Il semblerait que le mot « dolos » peut faire allusion aux os employés dans certaines pratiques de médecine traditionnelle et certains jeux d'enfants.
Le rapport de ce complexe industriel avec l'Afrique est vraiment surprenant. Des ouvriers venus du Cap-Vert, la bauxite provenante de Guinée, les dolos inventés en Afrique du Sud.
Voilà, nous sommes arrivés au croisement. Maintenant, il faut traverser la piste goudronnée et continuer tout droit sur ce chemin de terre. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de voiture. Vous n'avez pas l'habitude de regarder.
Ne vous inquiétez pas, je serai prudent. Regardez, là, au début du chemin, il y a plusieurs panneaux. Voyons voir. Si nous continuons tout droit, nous allons en direction Portofello.
Thomas, ne vous arrêtez pas. Nous devons continuer. Ce sentier fait partie du chemin naturel de la route du Cantabrique. Ici, il emprunte certains tronçons du sentier côtier de Chauvet, une partie de 18 km habilitée par la municipalité qui longe tout le littoral jusqu'à la plage de Porto Novo, en empruntant les sentiers des pêcheurs côtiers. Regardez, depuis ce renforcement, à droite, on peut voir la digue de l'extérieur.
Faites voir, je vais m'arrêter juste un instant. Impressionnant, c'est bien vrai. Mais encore plus impressionnante est cette mer puissante, la mer Cantabrique. Allons bon, ne me regardez pas comme ça. On continue. Avant, la mer déferlait ici violemment parce qu'il n'y avait rien pour la contrer. Mais maintenant, elle tombe sur la digue.
C'est vrai, quand la mer est démontée, le Salseiro passe par-dessus la digue.
Cela fait plusieurs fois que je vous entends parler du Salseiro, et ce mot ne m'est pas familier.
C'est bizarre. Je pensais que l'on l'employait depuis très longtemps par ici. On parle de Salseiro quand il y a une tempête en mer et les vagues frappent les roches en formant une écume blanche. Le Salseiro, quoi?
J'aime bien. Ce mot est très éclairant. Non seulement par l'image qui évoque l'écume, mais aussi par sa sonorité imitant le bruit de la mer lorsqu'elle se casse. Et il me plaît également parce qu'il ôte la tempête de tout son caractère dramatique. Je ne sais pas aujourd'hui, mais à mon époque, les galernes et les tempêtes faisaient beaucoup de morts en mer. Je me souviens comme si c'était hier la tempête du samedi de gloire de 78. Je veux dire 1878, bien sûr.
Regardez, en passant entre ces deux dolos qui sont à droite, on peut voir à l'horizon Os Farallos. Ce sont ces trois îlots qui se voient là-bas au loin. À gauche, il y a le P. Au centre, Asombrisa, qui veut dire sombre. Et à droite, Baisha, basse. Lorsque souffle le vent du nord-ouest, la mer saute de ce côté par-dessus le P. Continuons notre chemin. N'allez pas vous perdre. Par ici se trouve tout terrain gagné à la mer. Ce chemin a été effectué pour donner accès aux camions qui déplaçaient les Dolos. On a mis des débris sur la ligne de côte d'origine qui s'est perdue à certains endroits.
D'après ce que je vois, les Dolos se sont retrouvés un peu partout.
Les Dolos que l'on voit sur le chemin sont ceux que l'on a enlevés de la digue parce qu'ils se cassaient. Vous entendez bien. Peu de temps après avoir été mis en place, environ 3 ans après, ils ont commencé à se casser et ont dû être remplacés par des blocs en forme de cube. Les défectuosités des Dolos avaient déjà été détectées un peu plus tôt dans une digue qui s'est effondrée à Sines, une ville située au sud du Portugal. Ces cassures massives de Dolos dans le monde entier et presque en même temps ont remis en cause leur efficacité et provoqué un changement radical dans la manière de concevoir et d'analyser la résistance des digues.
Sur ce sujet alors, on a appris de ces erreurs. Tout n'est pas perdu dans votre monde.
Avant d'arriver au cimetière des Dolos, nous devons longer la plage Baleira. Nous pouvons nous y arrêter un moment, si vous le souhaitez.
Bien sûr, s'il ne faut pas beaucoup nous écarter du chemin, je serais ravi de pouvoir contempler une plage vierge.
C'est d'accord. Un peu plus loin, nous allons tomber sur une bifurcation. Il faudra alors suivre le chemin de droite qui longe la côte en direction des falaises de Moras, celles que l'on aperçoit là-bas au loin. Vous allez voir qu'il y a un autre chemin qui monte à gauche avec une pente assez prononcée. C'est le sentier côtier de Choé. Si on l'empruntait, on arriverait à un lieu appelé l'Atalaya, c'est-à-dire Vigie, 1 kilomètre plus loin. C'est un toponyme que l'on associe à la chasse à la baleine. Il y en a beaucoup de la sorte sur toute la côte. Ici, à Choé, nous en avons un autre qui est le Coteau d'Avela, qui peut faire référence également à un poste de vigie. Maintenant, arrivé à la bifurcation, n'oubliez pas de prendre le chemin de droite. Très bien. Thomas, vous disiez que vous connaissiez la tradition baleinière de Chauvet, n'est-ce pas?
Bien sûr, je reconnais ces toponymes. Ici, c'est la plage Baleira, et là-haut, la Talaya, et plus loin se trouve le Coteau d'Avela.
Eh bien, pour accéder à la plage Baleira, nous devons retrouver un petit sentier qui part à droite. Vous le voyez? N'allez pas le dépasser. Voilà. Vous allez voir de suite Os Farallones en face de vous et la pointe de la digue nord. Allez-y prudemment et calmement, car par ici, ce n'est pas si facile de marcher.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et encore moins avec ces chaussures que vous appelez baskets qui me font mal aux pieds. Mais peu importe, j'aime marcher dans ces sentiers plus sylvestres.
Là, devant, vous voyez un sol en pierre. Le sentier se fait plus large. N'allez pas plus loin. Cherchez un endroit, à droite, depuis lequel vous pourrez voir cette plage de galets. C'est la plage Baleira. Maintenant, elle est assez déformée parce qu'on y a laissé des pierres et des débris datant de l'ouverture des carrières. En haut, il y avait un peu de sable, mais dans cette zone, la mer roule et l'a emporté avec le temps.
On ne le dirait pas comme ça, mais ce fut une porte de refuge utilisée pour la chasse à la baleine. Moi, je ne l'ai pas connue en tant que telle, mais j'ai entendu les histoires que l'on racontait à l'époque. Là-bas, à la Talaya, qui est sur une colline sur une falaise, avant l'île de Saron, on dit qu'il y avait une guérite qui servait de refuge à une vigie qui avait pour mission de surveiller la mer sans relâche. Lorsqu'il apercevait le souffle d'une baleine, il allumait une torche d'ajon dont la fumée prévenait ses camarades sur terre. Les bateaux prenaient la mer avec 8 hommes à bord, prêts à poursuivre la baleine et à la chasser.
Eh bien, après ce petit point historique, nous pouvons revenir au sentier. on rebrousse chemin et on emprunte le même sentier. Allez, nous sommes bientôt arrivés.
C'est tout ce qu'il y avait. On disait que c'était le cochon de la mer, parce que tout était bon dans la baleine. La graisse et la viande, c'était l'essentiel. Les os servaient à faire des outils, et s'il y avait des morceaux qui s'abîmaient, souvent on les utilisait dans les potagers comme amendement.
On est de retour sur le chemin en terre. Maintenant, si on veut arriver au cimetière de Dolos, on doit tourner à droite.
On y va. Pour quelqu'un dans mon état, il n'y a pas meilleure façon de finir la promenade que dans un cimetière, même s'il s'agit d'un cimetière d'êtres inertes créé par la main de l'homme.
Votre ballon nef est également un être inerte conçu par l'être humain.
Mais un ballon aérostatique n'est pas autre chose qu'une espèce de machine qui, contenant un espace rempli de gaz plus léger que d'oxygène, s'élève dans les airs pour trouver un équilibre. Une machine faite par l'être humain pour s'intégrer dans la nature.
Il est évident que vous avez vécu avant l'essor industriel. Votre façon de voir les choses, aussi innocente, nous l'avons perdue. Au fil de cette balade, j'ai souhaité vous montrer l'énorme capacité de l'humanité à transformer le monde. Quelque chose qui a commencé à s'accélérer dans les années que vous avez connues. Vous et vos contemporains aviez totalement confiance dans les progrès techniques et scientifiques et cela signifiait que vous fondiez un grand espoir en l'avenir. Et ceci est, pour ainsi dire, une partie de ces espoirs placés en l'avenir. Nous sommes arrivés au cimetière de Dolos. On peut s'arrêter là ou avancer un peu plus entre eux. Mais ici s'achève notre promenade. Qu'est-ce que vous en dites?
C'est un endroit fantastique. Si je ne savais pas tout ce que je sais à présent grâce à vous, la présence de ces structures serait pour moi incompréhensible. Mais compte tenu de la raison pour laquelle elles sont arrivées là en si grand nombre, et de tous les malheurs qu'ils ont subis avant d'être écartés car elles ne remplissaient pas leur mission de protection des digues, ce lieu ressemble à mes yeux davantage à un gisement archéologique qu'un cimetière. Ainsi amoncelés, on dirait des squelettes issus d'une civilisation encore méconnue.
Je n'avais jamais vu les Dolos de cette façon, comme des objets d'une archéologie du futur. Quelle bonne idée, Thomas! Maintenant, il se fait tard, mais sachez qu'en suivant ce chemin, un peu plus loin, se trouvent les falaises de Moras. Maintenant, on les connaît sous le nom de Cantis de Papel, c'est-à-dire des falaises en papier, en raison des formes creusées par l'érosion de la roche. C'est encore un autre paysage déconcertant et merveilleux, et non le résultat de l'intervention humaine, mais des forces de la nature. Je vous y amènerai un autre jour pour que vous puissiez voir qu'à Chauvet, nous avons également une part de littoral restée encore vierge.
Ici s'achève cette promenade. Merci de nous avoir accompagnés. Comme à Thomas, je vous invite à découvrir les falaises en papier qui sont à 5 minutes d'ici en suivant ce chemin. L'accès se fait par un sentier étroit qui monte entre les pierres. Il faut faire très attention. Vous pourrez profiter de vues spectaculaires. D'un côté, le grand large et les pierres polies par le vent et l'eau jusqu'à parvenir à l'apparente fragilité du papier. De l'autre, ce cimetière des Dolos, vu d'un autre point de vue.
Les personnages de cet audioguide ont été interprétés par ordre d'intervention par Véronique Voyer, Olivier Cano, Michael Bonneau, Xavier Ron, Cécile Amela, et l'enregistrement fut réalisé par Thomas Acheitos. L'édition et la post-production du son ont été à la charge de Jacobe Martinez Antelo et la documentation scénario et direction sont signées chez Soulron. Ce travail n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration de Benigno Rapa García et Lucía Sánchez Meitín, et sans la lecture du manuscrit de Tomás Mariño intitulé Proyecto acerca de la navegación aérea. Projet relatif à la navigation aérienne.